Bonjour à tous. Eh bien, on vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous écoutent par Internet et bienvenue à ceux qui nous visitent. Il y a eu quelques nouveaux ce matin qui nous ont visités au premier service. Et si vous êtes ici au deuxième, c'est la première fois que vous êtes ici. Et vous avez des questions sur l'Église, n'hésitez pas d'aller voir le kiosque, donnez votre nom. Ça va nous faire un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Dans son livre intitulé « Si j'étais Dieu », j'éliminerai toute souffrance. John Dixon raconte une expérience qu'il a vécue alors qu'il a donné une conférence dans une université dont le thème s'intitulait « Les blessures de Dieu ». Après la conférence, le président, celui qui présidait finalement la conférence, qui animait, a donné l'occasion à l'Assemblée de pouvoir poser des questions. Donc, il a ouvert l'Assemblée à la période de questions et aussitôt, il y a quelqu'un qui s'est levé, un homme qui s'est levé, qui est dans la mi-trentaine et qui est également un leader musulman à l'université. Et il se dit outré vraiment à l'idée qu'un créateur de l'univers soit soumis aux forces de sa propre création, qu'il soit tenu de manger, d'aller même à la toilette, d'aller de dormir, et sans parler de mourir sur une croix. Voici ce qu'il a dit. Il dit, l'idée selon laquelle Dieu puisse avoir des blessures physiques ou émotionnelles est non seulement illogique, après tout, le Dieu des causes ne pourrait subir des blessures causées par une entité inférieure, mais rien de moins qu'un blasphème, comme il est cité dans le Coran. Maintenant, on peut comprendre certainement ce musulman de ne pas le trouver la croix et le sacrifice de Jésus-Christ comme tout à fait illogique. Comment Dieu pourrait permettre cela si Jésus est le Fils de Dieu? Effectivement, c'est illogique. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, on a pris des cours à l'université, on a suivi des cours à l'université de Concordia, et je vous ai déjà peut-être parlé de ça. C'était un programme spécial du judaïsme, et je voulais apprendre un peu l'arrière-plan du Nouveau Testament, tout ce qui s'enseigne dans le judaïsme et tout ça. Donc, c'est un département juif. Ils font venir, ils ont une entente avec l'université en Israël. Et il y a des rabbins qui viennent pour une période de 3 mois ou 6 mois, selon les ententes, les contrats des professeurs. Et ils demeurent à Montréal pendant une période de temps. Et puis, j'ai suivi un cours. Et le professeur, j'ai eu l'occasion de partager ma foi, comme quoi j'avais mis ma foi vraiment dans le Messie, Jésus-Christ, Yeshua, Yahmashiach, tout ça. On a eu une belle occasion. On avait plusieurs occasions de parler ensemble après le cours, et on est allé prendre des cafés de temps en temps au restaurant juste en face de l'Université de Concordia. Et lui, ça l'embêtait. Il était très honnête, puis il disait, moi, normalement, je ne peux pas concevoir que Dieu permettrait, laisserait, en d'autres mots, que Dieu laisserait son Fils unique, là, souffrir sur la croix. Mon ami, c'est atroce. Je ne peux pas comprendre ça. Et dans un sens, effectivement, c'est atroce. C'est illogique aussi. D'ailleurs, Jésus lui-même et d'autres diront qu'il deviendrait une pierre d'achoppement. La croix est une pierre d'achoppement. C'est complètement illogique que Dieu permette cela. Mais voilà que nous voyons que les Écritures, la Bible, la parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ effectivement est venu. Il est venu à la croix. Il a pris sur lui les péchés. Et c'est ça qu'on veut célébrer dans le temps de Noël. On voit vraiment un contraste entre la conception des religions du monde, que ce soit les musulmans ou autres, cette conception que c'est à nous vraiment de faire des œuvres et travailler fort pour essayer de nous acquérir une place au ciel. Mais l'idée selon laquelle Dieu lui-même enverrait son Fils unique venir sur la croix, souffrir comme ça, abandonner et d'avoir la colère de Dieu déversée sur ses épaules pour nous, c'est impensable. Eh bien, c'est ça qu'on célèbre dans le temps de la Pâque. Ce que certains dénoncent comme étant un blasphème, les chrétiens, en fait, le considèrent d'autant plus précieux, inspirant, et c'est ce que nous voulons célébrer. Dieu a des blessures. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, que Dieu est venu sur terre, a quitté le ciel pour prendre sur lui les blessures qu'on devait avoir parce que nous étions rebelles contre lui. Ennemi de Dieu, vraiment. Qu'on l'a tassé, on ne voulait rien savoir de Dieu. Et ça, c'est l'incarnation que nous voulons célébrer dans le temps des fêtes. C'est le pouvoir d'incarnation. Que le Dieu Tout-Puissant descend sur la terre, s'incarne dans la forme d'un simple serviteur, un jeune enfant, vulnérable, un bébé, venir ici prendre le châtiment sur lui qui nous revenait. Et pourquoi Jésus a pris nos blessures? C'est uniquement par la grâce de Dieu. Et c'est ça que saint Augustin disait. Il disait, Jésus est venu non en raison de nos mérites, mais bien en raison de notre misère. Maintenant, les religions vont dire que Dieu accorde le pardon à ceux qui le méritent. Même les musulmans disent cela. Les musulmans diront, Allah accorde le pardon à ceux qui le méritent. Et plein de religions vont dire la même chose. Mais le christianisme dit, Dieu accordera le pardon à ceux qui ne le méritent pas. Et c'est parce que nous sommes loin de Dieu, parce que nous sommes dans les ténèbres, que Dieu vient, que Dieu est venu vers nous. Et c'est ce que nous livre cette révélation que nous avons dans l'Ancien Testament, un des magnifiques livres prophétiques qui annonce la venue de Jésus, que nous avons chanté plus tôt, qui se trouve dans Ésaïe 9. J'aimerais vous encourager à venir, si vous avez votre Bible avec vous, peut-être de venir me rejoindre dans Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Ésaïe 9, 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse. Tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et la soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Ésaïe est en train de décrire finalement la condition de l'homme lorsqu'il est loin de Dieu, lorsque l'homme rejette Dieu. Il est dans les ténèbres. Ésaïe décrit bien l'état de ceux qui rejettent Dieu. On lit dans le chapitre précédent, chapitre 8, verset 23, voici ce qu'il est dit. « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Maintenant, cette description décrit bien le ton et l'atmosphère dans le monde moderne. Ésaïe est en train de décrire ce qui se passe quand le monde se détourne de Dieu et s'éloigne de Dieu, commence à se fier à toutes sortes de choses à part Dieu. C'était un temps assez inquiétant pour Judas, à l'époque où Ésaïe écrit ce passage. Israël est divisé en deux royaumes à ce moment-là. Vous avez le royaume du sud qui s'appelle Judas, et vous avez cette division avec le nord, le royaume du nord, qui s'était éloigné de Dieu, et c'est Israël, appelé parfois Éphraïm ou Samarie, qui est la capitale au nord. Différents noms pour décrire le nord, mais à ce point-ci de l'histoire, lorsqu'Ésaïe donne cette révélation de l'enfant qui va naître dans des siècles à venir, plusieurs siècles. Judas, au sud, le roi Achaz est là et il est confronté par le nord, le royaume du nord, Israël, avec la Syrie, qui veulent former, eux veulent former une coalition politique pour s'armer, augmenter finalement les effectifs militaires pour se prendre contre les Assyriens qui est en train d'élargir son empire. Donc, il y a une menace, les Assyriens qui, comme l'Irak, Babylone, dans cette région-là, veulent venir, la Syrie et Israël veulent s'unir et forcent la main du roi Akaz pour l'obliger par des menaces et même avec des soldats de la guerre pour le forcer à se joindre à eux dans cette coalition-là. Mais voilà que Dieu va envoyer Ésaïe le prophète pour l'avertir de ne pas se laisser influencer et ni manipuler, ni se faire mettre sous pression, de ne pas se laisser impressionner par le royaume du Nord et la Syrie, parce que eux se sont éloignés de Dieu, ils sont tombés dans l'idolâtrie et tout ça, et Dieu veut préserver la consécration, la sainteté du Sud, ils veulent qu'ils se collent à Dieu, et il exhorte Akaz à ne pas se laisser influencer, mais qu'au contraire, de se fier à Dieu, de regarder en haut que Dieu était pour être fidèle, qu'il prendrait soin d'eux et qu'il n'avait qu'à mettre sa foi en lui et croire en lui et que lui-même mènerait la bataille à sa place. Mais voilà qu'Akaz se laisse influencer et Akaz va faire autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir les Assyriens. Il va finalement faire un détour, aller voir les Assyriens et essayer de s'unir avec eux pour avoir la victoire contre la Syrie et Israël. Et ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que la Syrie, son but ultime, c'était d'élargir son empire. Donc, non seulement, oui, ils étaient pour régler le cas de la Syrie-Israël, mais après ça, venir à Juda et les menacer et les prendre possession et les attaquer. Alors, ce qui est arrivé à Akaz dans cet élan, en voulant négocier avec la Syrie, c'est laissé influencer par les idoles de la Syrie. Et finalement, lui-même, ce qu'il a fait, il a même embauché comme des prêtres pour les faire adorer d'autres dieux, des faux dieux. Alors, et ça a été épouvantable ce qui s'est passé dans le pays, et c'est ce que Dieu voulait prévenir en envoyant son prophète Ésaïe. Donc, voilà qu'Akaz lui-même s'éloigne de Dieu. Et là, Ésaïe va donc exhorter un reste, et c'est un thème qu'on voit dans l'Ancien Testament, le reste. Ésaïe, lui, veut rester fidèle à Dieu, il reste fidèle à Dieu, et malgré tout ces temps ténébreux, difficiles, il se colle à Dieu, et il y a quelques disciples avec lui. Donc, il exhorte ce reste à rester fidèle à Dieu, et le message qu'il va leur donner pour leur procurer de l'espoir, et cette prophétie, cette vision que Dieu va lui donner, qu'un jour il va envoyer le Sauveur, un rappel que Dieu est au contrôle de l'histoire. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Des centaines d'années plus tard, on voit Jésus venir, cet enfant qui va naître. Alors, Ésaïe décrit leur état, l'état de ce qui arrive lorsqu'on rejette Dieu. Ils sont accablés dans la détresse, ils ont faim. Et ce qui est très étrange, et c'est ce qui est tellement naturel chez l'être humain, au lieu de se tourner à Dieu lorsque ça va mal, ils vont même commencer à se tourner, ils vont se faire insistants à aller chercher des ressources sur la terre, ils vont regarder uniquement horizontal, ils vont même commencer à consulter des diseuses de bonne aventure, l'astrologie, tout ça, pour avoir des réponses, avoir des conseils, comment ils pouvaient sortir de ce temps ténébreux et difficile et menaçant. Et ils vont même commencer, alors qu'ils sont dans ce temps oppressif et qu'ils sont sous l'oppression, ils vont même commencer à mépriser Dieu au lieu de se repentir et se tourner vers Dieu. Est-ce que ça ne décrit pas tellement le ton et l'atmosphère de ce que nous connaissons dans notre monde moderne en 2015? Ils vont commencer à consulter les morts, et ce qui est tout à fait contre la volonté de Dieu. Alors, Ésaïe, voyant cet élan vers les gens qui consultaient les morts et tout ça, veut prévenir ses disciples, les disciples qui marchent avec Dieu, ce reste, de ne pas agir, de ne pas se laisser influencer par eux. Et voici ce qu'il va dire justement au chapitre 8, le chapitre qui précède, au verset 19, il dit, « Si l'on vous dit, alors si on vient vous voir, on vient vous dire, écoute, moi je connais quelqu'un, là, elle tire des cartes, puis tout ça, elle est vraiment bonne, tu devrais venir la voir. Si l'on vous dit ça, si on vous les invite, qu'on vous donne la carte d'affaires, puis qu'on vous invite de venir voir ces consultants-là, qui convoquent les morts, ne le faites pas, dans le fond. » Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, si on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits, les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, répondez, il faut revenir à la loi, c'est la parole de Dieu, et au témoignage. Le témoignage étant ce que le message d'Ésaïe et des prophètes dans la Bible. En d'autres mots, tournez-vous à Dieu. Refusez de vous laisser influencer par les astrologues et tout ça. Et dans le fond, n'allez pas chercher des ressources qui se trouvent sur la terre. On voit dans Deutéronome 18, hein, qui dit que Dieu ne permet pas qu'on aille consulter les astrologues et tout ça, l'astrologie. Des fois, on vient me poser la question, qu'est-ce que j'en pense et tout ça. C'est bien clair dans Deutéronome 18, Dieu le défend, Dieu ne veut pas que son peuple aille consulter l'astrologie et tout ça. Mais ça va plus loin, si ça ne se limite pas juste à ça, c'est d'aller chercher des ressources finalement qui peuvent nous influencer et nous éloigner de Dieu. C'est pas de prendre des ressources qui sont sur terre nécessairement, il s'agit de faire attention. Il y a des bonnes choses, absolument. Dieu a créé le monde. Mais en même temps, on veut faire attention, on veut être vigilant. Et la Bible dit d'agir avec discernement. On ne veut pas se mettre dans une situation vulnérable où on va se faire influencer de nous éloigner de Dieu. Et c'est ce qui se passe ici. Alors, verset 20 continue en disant, « Si l'on ne parle pas de cette manière, si on ne refuse pas d'aller et de servir des ressources comme ça, mondaines, qui peuvent nous éloigner de Dieu. Il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et même son Dieu. Il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Il n'y verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans l'épaisse ténèbre. » Et ça décrit bien l'état du cœur des gens. Parce que, vois-tu, la Bible parle, ça c'est une description géographique, c'est le contexte historique de l'époque. Mais derrière tout ça, il y a un combat, il y a un plus grand combat, et c'est l'obscurité spirituelle qui se trouve dans notre cœur, loin de Dieu. À cause de notre péché, nous sommes séparés d'avec Dieu, nous sommes morts spirituellement, nous dit Romains 6 et Romains 3. Alors, il y a une noirceur, il y a une c'est ténébreux dans le cœur, parce que nous n'avons pas la lumière qui est Jésus-Christ. Et c'est ce qui arrive quand on tourne le dos à Dieu. C'est les ténèbres. Ils sont donc confrontés à la détresse, le stress. Ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Ils vivent dans le désespoir. Ils font de l'angoisse, nous dit le chapitre, la fin du chapitre. Et ça décrit bien hein, l'état des gens aujourd'hui. Je vous ai peut-être déjà fait part de Madonna, une entrevue qu'elle avait accordée. Et alors, voilà cette femme qui a tout, qui a la gloire, la santé, l'argent, elle a absolument tout, et elle-même avoue et dit, je ne peux pas m'arrêter parce que j'essaie de combler un vide que j'ai dans le cœur et je ne suis pas capable de le combler. Imagine quelqu'un qui a tout ce que tu pourrais espérer, d'immenses maisons, des châteaux, de l'argent, t'en veux-tu, tiens, la gloire, malgré ça, elle-même avoue très humblement qu'il y a un vide dans son cœur et elle se sent obligée de continuer à faire des spectacles pour combler, aller chercher un peu d'estime et de gloire pour essayer de combler ce vide qu'elle n'est pas capable de remplir. Eh bien, Jésus-Christ dit, moi, je veux remplir ce vide-là. Je peux remplir ce vide-là. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. Alors, lorsqu'on se détourne de Dieu, il y a ce vide qui est là dans le cœur. Et c'est l'état du cœur de l'homme et de la femme qui s'éloigne de Dieu, qui est loin de Dieu. Le résultat, c'est qu'ils sont dans la misère et au lieu de se repentir même, ils blasphèment. Et regarde aujourd'hui les gens qui vont parler des épreuves dans le monde, de la souffrance dans le monde. Et qu'est-ce qu'on fait? Si on regarde en haut, c'est juste pour critiquer Dieu et mépriser Dieu. On regarde plutôt la terre et on se concentre sur les ressources qui se trouvent sur la terre. Ils méprisent tout ce qui va mal dans le monde, mais ils vont mépriser Dieu. Alors, le monde sans Dieu vit dans l'oppression. Au lieu de se fier à Dieu et à sa parole et au témoignage des prophètes, comme dans le cas d'Ésaïe, on se tourne vers les idoles, vers des faux dieux, à tout finalement, sauf au vrai Dieu, le Dieu des Écritures. Et c'est l'état de notre cœur. Car l'oppression dont parle Ésaïe ici avec Akaz, c'est pas uniquement politique. Il y a des ténèbres spirituelles derrière tout ça, et c'est le péché. La lutte commence là. On parle donc d'une oppression spirituelle. Et la seule solution est Jésus. C'est dans cette condition d'oppression et de ténèbres qu'Ésaïe va annoncer une grande nouvelle qui est pleine d'espoir. Il prédit la venue du Messie, du Sauveur. Ésaïe annonce la naissance de Jésus. Il parle de l'incarnation, sa venue sur terre. Et nous apprenons qu'il vient apporter la rédemption. Voici la bonne nouvelle. C'est l'Évangile selon Ésaïe. L'incarnation apporte la rédemption. Elle nous fait passer de l'oppression à l'illumination, à la célébration et à la libération. C'est la rédemption, c'est l'évangile selon Ésaïe. L'incarnation apporte donc l'illumination. Chapitre 8, verset 23, nous lisons ceci. « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la Galilée à la population étrangère. » Pour le moment, c'est la détresse. Ésaïe fait allusion au premier territoire à tomber entre les mains des Assyriens, ces Zabulon et Nephtali qui étaient juste au nord, justement. D'ailleurs, le peuple juif a été déporté en Assyrie. Et qu'est-ce qui est arrivé avec ce territoire, Nephtali, Zabulon, ce territoire-là? C'est devenu finalement entre les mains des Assyriens. Et les Assyriens en ont fait trois provinces assyriennes. Trois expressions pour décrire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. C'est le seul endroit où la Galilée est appelée la population étrangère, c'est-à-dire un territoire où se trouvent des Juifs et des non-Juifs. Pourtant, c'est Israël. On se demande pourquoi, maintenant, Ésaïe mentionne ce détail, c'est le seul endroit qu'on va mentionner ce petit détail-là, que c'est un territoire où se trouvent des Juifs et des non-Juifs. On pense que peut-être c'est dû à Salomon, qui avait cédé à Hiram, roi de Tyr, une vingtaine de villes situées dans la Galilée, c'est ce qu'on voit dans 1 roi 9. Ou encore, on pense à Zabulon et Nephtali, qui n'avaient pas chassé tous les Cananéens, alors ils ont vécu à Galilée, c'est ce que nous dit Juge 1.30. Mais quoi qu'il en soit, personne d'autre dans l'Ancien Testament fait allusion au fait qu'il y avait des non-juifs dans le nord. Et ce que Ésaïe est en train de faire, alors qu'il est en train d'annoncer la venue du Messie, c'est que le Messie va venir et il sera une bénédiction non seulement pour les Juifs, mais pour les non-Juifs aussi, pour des gens aux extrémités de la terre. Alors, Ésaïe, parce qu'il faut savoir que le livre d'Ésaïe, c'est comme une mini-Bible, il y a 66 chapitres comme la Bible, mais 66 livres, mais ici, 66 chapitres, et le thème central de la grande idée de tout le livre d'Ésaïe, c'est le Messie qui vient. Et ça va revenir, et on montre différents aspects de ce Messie qui vient. Il vient en juge, il sera un juge, il vient comme un roi et tout ça. On soulève différents aspects du Messie. Mais c'est intéressant de savoir qu'à ce moment-ci, lorsqu'il va révéler la naissance miraculeuse du Messie qui s'en vient, il va ouvrir ce grand exposé dans lequel il va se livrer pour exposer le Messie. Il ouvre ce grand exposé en nous précisant qu'il vient non seulement pour des Juifs, mais pour des non-Juifs aussi, pour des gens à l'extrémité de la terre. C'est à cet endroit ténébreux, angoissé, méprisé, c'est la place la plus vulnérable, Nephtali, Zabulon, les premiers à tomber dans les mains des Assyriens. Alors, c'est dans cet endroit ténébreux, angoissé, méprisé, la Galilée à la population étrangère, dans cette noirceur, que la lumière va briller. C'est là que Dieu choisit d'en faire son entrée. Imaginez, il n'arrive pas à Jérusalem, la capitale religieuse, l'endroit le plus spirituel où se trouve le temple, la maison de Dieu, la présence de Dieu. Non, il choisit d'aller dans ce petit recoin, dans le nord, un coin même méprisé par les gens, même du nord, dans le coin de Nazareth. C'est cette région-là de Nephtali. Quand on regarde le début de ce passage, on ne peut faire autrement que de penser à Matthieu 4, alors que 700 ans plus tard, Jésus commence son ministère justement dans ce territoire-là, exactement là. Nous lisons par exemple dans Matthieu 4, chapitre verset 13, « Jésus se retira en Galilée et il vint habiter dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. » Et Matthieu va nous aider à faire le lien, à comprendre. Regarde, c'était déjà annoncé, c'est une prophétie qui était déjà annoncée il y a 700 ans passés. Et « afin, dit-il au verset 14, que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. » Et verset 16 continue en disant « le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Changez d'attitude, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Imaginez à quelle personne, les premiers à recevoir ce message d'espoir, de la lumière qui est arrivée, que le royaume de Dieu commence, c'était la pire place d'Israël, le nord. Les gens méprisaient le Nord. Et c'est là que Jésus arrive, Jésus, cette lumière. L'un des meilleurs commentaires, j'ai reçu un commentaire biblique il y a plusieurs années par Louis Book, m'a donné un cadeau, puis c'est un commentaire sur Ésaïe. Et j'étais bien content parce que c'est le meilleur commentaire sur le livre d'Ésaïe, finalement écrit par un bonhomme qui s'appelle Alec Mottier. Et voici ce qu'il dit. Ésaïe parle de la détresse du peuple. Mais les yeux de la foi, oui, regardent ce qui se passe. En d'autres mots, on est réaliste. On regarde, il y a des épreuves, c'est difficile, et absolument, oui, il dit. Les yeux de la foi regardent ce qui se passe. Mais les yeux de la foi affirment qu'aussi réelle qu'elle soit, elle ne représente pas la vraie réalité. Comme toujours, le peuple de Dieu doit décider le genre de lecture qu'il fera de son expérience et comment cette lecture va affecter sa vie. Doit-il regarder les ténèbres, les désespoirs, les rêves échoués et conclure que Dieu l'a oublié? Ou doit-il plutôt se rappeler les bontés passées, les promesses actuelles et agir avec foi? Ésaïe insiste que l'espoir est une réalité présente. Les ténèbres sont réelles, mais elles ne sont pas toute la vérité et certainement pas la vérité fondamentale. Ésaïe décrit comme une réalité présente quelque chose qui va s'en venir plus tard. Il a une vision de l'avenir. Et la lumière qui doit percer les ténèbres va se réaliser pleinement en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ lorsqu'il va venir. C'est la raison pour laquelle on affirme régulièrement que la Bible est un livre qui porte sur Jésus-Christ. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, elle pointe, elle converge vers une personne, c'est toujours Jésus. D'un bout à l'autre. Déjà au IIe siècle, Irénée disait, « Jésus est le cœur des Écritures. » Dans l'Ancien Testament, Jésus est prédit. Dans les Évangiles, il est révélé. Dans les Actes, il est prêché. Dans les Épîtres, il est expliqué. Et dans l'Apocalypse, il est attendu. Amen. Le pasteur anglican Griffith Thomas a dit ce qui suit à l'endroit de l'Ancien Testament. Il dit, c'est un livre de prophéties non accomplies. Tu regardes juste l'Ancien Testament, c'est plein de prophéties. Il y a des centaines de prophéties et tu restes un peu comme sur ta faim. Oui, oui, mais c'est comme s'il manque de quoi, là. Il y a quelque chose qui peut arriver, là. Alors il dit, il décrit ça, il dit, écoutez, l'Ancien Testament, il dit, c'est un livre de prophéties non accomplies, de cérémonies non expliquées. On te lance ça dans l'Ancien Testament, puis tu es là, aïe, aïe. Puis il dit, c'est un livre de prophéties non accomplies, de cérémonies non expliquées et d'aspirations insatisfaites. Mais Thomas continue en disant ceci, il dit toutes ces choses. Les prophéties non accomplies, les cérémonies non expliquées, les aspirations insatisfaites sont résolues en Jésus-Christ. Sa vie accomplit les prophéties, sa mort explique les cérémonies et la résurrection satisfait les aspirations. Est-ce que j'entends des amen ici? Amen. On arrive donc à Matthieu et là on découvre, voilà ce que disait Ésaïe 9. C'est comme si Matthieu dit, regardez, il pointe du doigt. Vous voyez ce qu'on avait prédit, Ésaïe avait prédit il y a 700 ans plus tôt? C'est Jésus-Christ, c'est lui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres et dans l'oppression et qui cherchait au mauvais endroit a vu une grande lumière se lever. Voyez-vous, l'incarnation apporte donc l'illumination. La lumière vient au milieu des ténèbres, la lumière surgit au milieu de l'oppression. Ésaïe décrit l'avenir comme si c'était déjà arrivé. Et c'est très étrange comment il décrit. C'est vraiment intéressant. Quand tu lis Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6, il écrit en parlant d'une quelque chose qui va arriver dans 700 ans, mais il écrit au temps passé. C'est comme si c'était déjà arrivé. Donc il dit, regarde, le Messie s'en vient. C'est arrivé. Et là, c'est une notion qu'on va trouver dans les Écritures, le « déjà » et le « pas encore ». C'est quelque chose qu'on voit un peu comme Paul qui va dire « nous sommes déjà assis dans les lieux célestes ». En d'autres mots, vivez comme si vous étiez au ciel. Prends courage, regarde ce qui s'en vient. Jean qui est sur l'île de Patmos, qui est en exil, il voit une vision de l'Apocalypse, il voit ce qui s'en vient. Jésus revient dans la gloire comme un règne, imaginez, l'espoir pour Jean qui est en exil, qui est abandonné là sur l'île, puis Dieu est en train de lui dire, « Fais-toi-en pas, mon gars, je contrôle l'histoire et je m'en viens dans ma gloire. Jésus revient. » Et en d'autres mots, cette vision de l'avenir nous amène de l'espoir pour notre quotidien aujourd'hui parce qu'on a besoin de se souvenir, « Hé, mon ami, regarde où on s'en va. » Vois-tu, c'est comme ça qu'on doit vivre notre vie chrétienne. Si même aujourd'hui tu te trouves dans une situation qui est difficile, c'est ténébreux, c'est dur, et on vit des situations parfois dans la vie qui sont difficiles, Jésus veut que tu te rappelles, oui, mais c'est pas fini, je veux que tu te rappelles que je contrôle l'histoire. J'avais promis 700 ans plus tôt que j'étais pour venir, je l'ai fait, tu l'as vu, plus de 300 prédictions que j'avais données se sont réalisées à l'arrivée de Jésus-Christ. Eh, mon ami, miracle! Ben, je veux que tu te rappelles que la fin s'en vient, où tu vas rentrer pour l'éternité, où il n'y aurait plus de souffrance, plus de douleur, et ça va être la fête, ça va être le party. Hé, hey, mon ami, moi, je me sens un peu trop vieux maintenant à faire des parties trop tard le soir. Je dis, là, je suis là, puis là, quand les enfants sont là, puis ça veille un peu plus tard, là, j'ai comme hâte d'aller me coucher. Mais là, dans l'éternité, ça a l'air qu'on va avoir un nouveau corps. Fait que là, je ne serai jamais fatigué. Fait qu'on va être en party pour l'éternité. Mon ami, ça va être glorieux. Hey! Hein? Toi qui avais hâte à samedi soir pour ton party, c'est rien. C'est rien. Attends de voir ce qui s'en vient. Ça va être glorieux. Mon ami, lorsque tu vas être devant Jésus-Christ dans la gloire et tu vas être dans l'admiration. Ah, oh, ton cœur va être... Hey, tu pourras plus. Là. Tu sais, comme ton cœur est tellement plein, il n'y a plus de place. Tu as tellement de la joie, tu es excité. Hey, mon ami. Hey, c'est ça que tu vas te sentir comme ça. Ça va être incroyable. Ça va être glorieux. Et là, Ésaïe va répondre à la question qui est tout à fait naturelle, que les gens doivent se poser, c'est comment ça va se passer, tout ça. Comment est-ce possible? Comment ça va se produire? Eh bien, Ésaïe répond au verset 6 en disant, écoute, voilà ce que fera le zèle d'Éternel. Il est le maître de l'univers. C'est pour ça qu'il est capable de le faire. C'est une intervention divine et seul Dieu est capable d'accomplir cette œuvre-là. Il est le maître de l'univers. Comment la lumière peut-elle percer nos ténèbres? C'est par le zèle de l'Éternel, le zèle du Seigneur. Dieu va le faire. Et c'est l'un des thèmes qui revient dans les Écritures, le grand combat entre la lumière et les ténèbres. Et c'est Jésus qui remporte la victoire. Il apporte la lumière. Il est la lumière. Vous vous rappellerez, lorsque Siméon a pris le bébé Jésus dans ses bras, lorsque les parents de Jésus l'ont emporté, et Siméon attendait la consolation d'Israël, et voici ce qu'il a dit, poussé par le Saint-Esprit, dans Luc, chapitre 2, verset 29. Nous lisons, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Dans Jean, chapitre 8, verset 12, nous disons, « Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Et ça, c'est un miracle. C'est Dieu qui donne ça. Dieu qui fait cette intervention-là dans notre cœur. 2 Corinthiens 4, 6, continue en disant, « Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Moi, quand j'étais jeune, j'avais un Nouveau Testament chez nous. Mais le Nouveau Testament n'était pas rien de glorieux chez nous. Ça traînait sa tablette pleine de poussière, puis on le ramassait pas. Puis une couple de fois, on l'a regardé, puis c'était comme là. C'était des lettres sur des bouts de papier qui étaient là, imprimés dans un livre. Ah, mais Dieu n'avait pas fini avec moi. Un jour, lorsque j'étais avec un de mes clients, mon client a commencé à me parler de Jésus-Christ. Et là, miraculeusement, il y a quelque chose qui c'est comme s'il y avait un voile qui s'est arraché de mes yeux. Et là, pendant que mon client me parlait de Jésus au restaurant, là, c'est comme si j'ai découvert pour la première fois de ma vie qui était Jésus. Et ça, c'est une intervention divine de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. J'étais avec ma copine, Lise, qui est aujourd'hui ma femme, mon épouse, et on l'avait cassé, on sortait même plus ensemble, on s'haïssait pour mourir. Puis ça allait pas bien, notre affaire. Mon ami avait même commencé à fréquenter une autre... En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Fait que là... J'ai même pris une chance. J'ai dit, chérie, j'ai quelqu'un, là, à Hall, c'est assez loin, Hall, Gatineau. Mon ami, moi, je restais à Laval, la belle ville, tu sais, Hall, là, c'était loin, Gatineau. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'Ouest canadien. On va aller là. Là, j'aime ça, en passant, là, j'aime ça. J'ai rien contre Gatineau, j'aime beaucoup Gatineau. Je suis tombé en amour avec la région. Mais dans ce temps-là, tu sais, ah, c'était loin, ça, quand tu restes à Montréal, puis à Laval, hein? Fait que là, je dis ça à ma femme, à ma copine, qui m'aimait pas à ce moment-là, puis qui sortait plus avec moi, qui sortait avec un autre homme. Ouh, ça me fait du bien de dire ça. En tout cas. Et là, j'ai dit, écoute, viens-t'en, on va entendre, il y a une client qui veut parler de Jésus, 200 quelques kilomètres d'ici. Elle dit, quoi? Dans quelle sorte d'affaire tu t'es embarqué encore, là? Tu sais, ça allait vraiment pas bien, notre affaire, tu sais. C'était pas la grosse romance. Mais finalement, elle est acceptée. Elle dit oui. Fait qu'on, elle s'en vient dans la région, puis mon client lui parle de Jésus-Christ. Tous les deux, ce soir-là, à genoux, on demande à Jésus de nous sauver, d'entrer dans notre vie. Mes chers amis, moi, je peux-tu te dire une affaire? Ça, c'est une intervention de Dieu. Et ici, c'est plein de témoignages comme ça, où Dieu est intervenu dans votre vie pour révéler son Fils. Et voici comment c'est décrit, cette expérience-là. Il y en a qui appellent ça la nouvelle naissance, qui appellent ça la conversion. Voici comment Paul le décrit, entre autres. Il dit, le Dieu qui a ordonné la lumière, que la lumière brille au sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans votre cœur. Vous rappelez-vous de ce moment-là? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vécu cette expérience-là? Est-ce que j'entends des amens? Oui, vous levez la main, ceux qui ont vécu ça. Oui, oui. Il y en a plusieurs, hein? Il y en a d'autres... vous êtes moins sûr? Vous n'êtes pas sûr? En tout cas, OK, c'est correct. On chemine, on veut découvrir. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est un miracle, ça. La conversion, c'est un miracle. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Il y a des gens, jamais on se serait imaginé qu'ils seraient venus à Jésus-Christ. Moi, le gars qui m'a parlé de Jésus, mon client, là, m'a dit, Normand, honnêtement, j'avais peur de te parler de Jésus. Et moi, je mesurais 6 pieds, puis je mesurais à peu près 4 pieds. Là. Puis là, je pesais à peu près 200 quelques livres. Je m'entraînais dans ce temps-là. Puis, faisait bien des haltères, il avait des gros bras, puis tout ça. Puis, il dit, honnêtement, il dit, Normand, j'hésitais avant de parler de Jésus. J'ai dit, ce gars-là va me foutre une claque dans la face quand je vais parler de Jésus-Christ. Mais bon sang, gloire à Dieu, il a osé parler de Jésus. Amen. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est en train de fondre mon cœur, puis faire resplendir, braquer les projecteurs sur Jésus dans mon cœur pour que je découvre la beauté de Jésus. Ah, man, ça, c'est un miracle, frères et sœurs. C'est un miracle. Psaume 27, 1, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Si Dieu est avec toi, mon ami, de qui aurais-je peur? Alors, vois-tu, on a bien des peurs dans notre vie. Mais il faut se rappeler, hey, le Dieu de l'univers est avec moi, puis je suis son enfant. Est-ce qu'il ne prendra pas soin de moi? Puis même à la rigueur, s'il y a quelque chose qui arrive, une épreuve, parce qu'on va vivre des épreuves, la santé, nous, à un moment donné, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, on ne s'attend pas, tout ça. À la rigueur, lorsque ça arrive, ces moments ténébreux de notre vie, on peut se rappeler comme David. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi j'aurais peur? Dieu est mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui? Qui est-ce que je vais redouter? Dieu est au contrôle. La lumière triomphe sur les ténèbres. Jésus triomphe sur le mal, les ténèbres et le péché. Jésus est la lumière, il est mon salut. De qui aurais-je crainte? Par nature, nous sommes dans les ténèbres. On ne marche pas naturellement dans la lumière. Dieu doit faire cette œuvre dans nos cœurs. Jean 3 dit ceci. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leur manière d'agir était mauvaise. Naturellement, on ne veut rien savoir de Dieu. Naturellement, là. Tu ne te lèves pas un matin, « Ah, oh, j'aime Dieu. Ah, oh, je veux avoir une relation avec Dieu. » Non, ça prend une intervention divine pour ça. Mais encore faut-il que tu acceptes cette œuvre du Saint-Esprit. Il faut que tu acceptes, il faut que tu dises, « Oui, Seigneur, je veux venir à toi. » Parce que Dieu appelle, Dieu frappe à la porte de ton cœur. Et Dieu va placer des gens peut-être autour de toi pour... annoncer l'Évangile, comme mes clients l'ont fait, pour que tu puisses ouvrir ton cœur. Tu dises oui au Seigneur. L'incarnation apporte la rédemption. Elle nous fait passer de l'oppression à l'illumination et à la célébration, ces fêtes. Quand tu découvres Jésus-Christ, il y a quelque chose qui change dans ton cœur. Tout d'un coup, il met sa joie. Jésus l'a dit, moi je donne une joie comme nul autre. Ma joie est parfaite. Tu sais, dans le fond, Jésus, quand on a Jésus dans cette vie, on découvre finalement le vrai bonheur. Nous, les gens cherchent le bonheur. Mais entendons-nous qu'est-ce qu'ils entendent par le bonheur? C'est quoi le bonheur? Hein? Souvent, on va se souhaiter beaucoup de bonheur dans la nouvelle année qui va arriver. Puis, qu'est-ce qu'on entend? Oh, je te souhaite de la santé. C'est important, santé. Bonheur, bien de l'argent, succès, puis ça. Mon ami, le bonheur que Jésus a en tête est tellement plus profond et plus riche, plus parfait. C'est ultimement le vrai bonheur. Dans le fond, on cherchait le bonheur, mais c'est une caricature. C'est la moitié du tiers du quart du bonheur que le Seigneur veut vraiment nous donner. Le vrai bonheur, le bonheur parfait, se trouve en Jésus-Christ. Et il faut comprendre cette vision qu'Ésaïe nous donne au Ésaïe, chapitre 9, versets 1 et 2, à la lumière de l'Apocalypse. Voyez-vous, le peuple qui marchait, versets 1 et 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse. En d'autres mots, prophétiquement, plusieurs juifs et non-juifs viendront à Jésus-Christ et ensemble, on va célébrer la gloire de Dieu. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Voyez-vous, Apocalypse chapitre 7 nous parle de la fin des temps. Et là, on se retrouve, on ouvre le rideau, puis on se retrouve derrière, et on se retrouve au ciel par la vision de Jean que Jean reçoit. Et là, ce qu'on voit, c'est une foule immense des hommes de toute nation, juifs et non-juifs, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, et ils crient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et sur l'agneau et à l'agneau. Tous les anges qui se tiennent autour du trône, des anciens et quatre êtres vivants, se prosternent de visage contre terre devant le trône. Et ensemble, toutes ces nations, des gens de toute langue, de toute tribu, on est là et on adore Dieu. » Des juifs et des non-juifs rassemblés pour cette grande célébration. Et finalement, c'est la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, qu'il a dit, tu vas avoir des gens à travers toutes les nations comme le sable de la mer, tu vas avoir des gens qui vont venir, je vais te donner une postérité comme le sable de la mer, et c'était la postérité spirituelle dans la foi en Jésus-Christ. Tu regardes l'image qui arrive tout comme ça, tout d'un coup, les mages qui viennent de l'Est, de Babylone, l'Irak, tout ça, c'est même pas des juifs, tout d'un coup, ils viennent adorer un enfant juif, et c'est l'œuvre de Dieu de conduire les gens vers Jésus. Ils ont suivi la lumière qui les a conduits à Jésus, et c'est l'œuvre de Dieu de nous conduire vers Jésus. Alors la joie résulte de la grande moisson, le butin, le trésor gagné, la plus grande bataille menée entre la lumière et les ténèbres, et Jésus a gagné. Ésaïe 9:3 dit, en effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire de Madian. Intéressant qu'Ésaïe fait allusion à Madian parce que c'est une victoire qui a eu lieu justement dans le territoire du nord de Nephtali, Zabulon et tout ça. Et c'est une victoire miraculeuse avec Gédéon. Vous vous en souviendrez, Dieu envoie un ange à Gédéon puis il dit, écoute, tu vas aller te prendre, tu vas aller mener une guerre contre ce peuple, les ennemis qui veulent nous détruire, détruire Israël. Tu vas te battre contre eux. Ils sont une foule nombreuse comme des sauterelles. Ils sont des milliers et des milliers armés jusqu'aux dents, sont puissants. Puis je t'appelle toi, Gédéon, et l'ange l'appelle le héros. Mais le tonon, Gédéon, c'était pas un héros, c'était pas un soldat, c'était pas l'élite militaire, il n'y avait pas de médaille d'un général, rien. C'est un simple homme. Il dit, moi, un héros. Il dit, oui. Il fait que là, Gédéon se retourne d'abord, s'en va essayer de compter ses effectifs pour essayer de trouver des milliers de soldats pour se battre contre cet empire. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il trouve des milliers, effectivement, de soldats. Dieu le regarde, il dit, t'en as trop, t'as trop de soldats. Gédéon, il dit, t'as trop de soldats. Tu veux que je baisse les soldats? Habituellement, c'est le contraire. Tu augmentes les effectifs. Il dit, même, tu vas aller chercher peut-être les plus jeunes en plus, tu sais. Il dit, non, Dieu, il dit, non, tu vas baisser ça, t'en as trop. Fait que là, Gédéon baisse, OK. Non, t'en as trop, baisse encore. Fait que, OK, là, il est rendu à 10 000. Il me semble que c'est pas pire, là. On devrait être pas pire, là, le Seigneur. Tu sais, il me semble qu'il y a une limite, là. Tu sais, c'est une grande armée, ils sont puissants, tout ça. Non, baisse encore. Fait qu'il dit, baisse encore. Ouais. Fait que là, il dit, OK, on enlève. Non, baisse encore. Fait que finalement, tu baisses. Sa grosse armée qui doit se prendre contre toutes les milliers de soldats, cette élite militaire au bord, là, ils sont rendus, Gédéon est rendu avec juste 300 personnes. Mais il dit, OK, 300 personnes, on va vraiment se battre contre toute cette grande armée-là avec 300 personnes. Oui, puis il dit, j'ai déjà choisi tes armes. Ah oui, OK, là, il y a des canons, je pense. Hey, tu sais, écoute, c'est Dieu, imagine-toi les armes. Il dit, oui, ça va être des trompettes. Oui, parce qu'il dit, effectivement, ce que je veux, ce que tu vas faire, tu vas prendre des trompettes, des trompettes, des torches, tu vas mettre ça dans des vases, tout ça, puis là, tu vas te promener, puis là, quand tu vas arriver autour, puis tu vas faire... Il dit, ça, ça va être tes armes. OK. OK. Stratégie militaire 101. Trompette, torche, vase. Mais sais-tu quoi? Gédéon avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Dieu! Dieu était avec eux autres. Dieu menait le combat. Dieu allait livrer la bataille. Et quand que Dieu se bat, laisse-moi te dire, il gagne tout le temps. Et effectivement, Gédéon s'en va, puis commence, là, mon ami, puis c'est tout, tout, tout. Puis qu'est-ce qui arrive finalement? Eh bien, nous donnons, l'armée devient une grosse chorale. C'est une grosse orchestre, plein de trompettes, puis loue Dieu, ils sont en train de chanter. Ben, en fait, ils sonnent les trompettes comme une grosse orchestre de louanges, et pendant qu'ils sont en train d'adorer Dieu, marcher par la foi, parce que ça, c'était certainement pas logique, là, qu'est-ce qui arrive? Dieu met la confusion dans le camp de l'ennemi, et les gars de l'autre bord, cette élite militaire, commence, c'est en plein milieu de la nuit, là, ils sont là, ils sont en plein milieu, ils savent pas, puis ils commencent à s'entretuer entre eux. Johnny qui le regarde, il dit, voyons, qu'est-ce que tu fais là? C'est là. Mathieu qui dit, hey, lâche-moi! Ça s'entretuait tellement, finalement, que ça a été, là, tiens, la victoire incroyable. Et laisse-moi dire qu'à la fin de tout ça, tout le monde pouvait dire, la victoire appartient à l'Éternel. Il n'y avait pas de doute là-dedans. Et on a besoin de se souvenir, frères et sœurs. On a besoin de se souvenir que quand on livre un combat, que ce soit un combat contre des tentations du péché, rappelle-toi, Jésus a déjà vaincu cette victoire. Il te l'a déjà procuré à la croix. Tu peux être victorieux. Tu peux être victorieux. Tu peux laisser ce péché-là dans ta vie en ce moment. Tout à fait possible. C'est vaincu. Le péché est réglé. Une fois pour toutes. Et nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous donne la force, la puissance qu'on a besoin de marcher par la foi et d'aller de l'avant, de victoire en victoire. Alors, l'incarnation apporte la rédemption. Elle nous fait passer de l'oppression à l'illumination, à la célébration et à la libération. Ésaïe 9:3 dit ceci, « En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrées aux flammes pour être réduits en cendres. » Qu'est-ce qu'il dit? En fond, il est en train de dire, c'est Jésus qui nous rend libres. Jésus nous rend libres, il nous affranchit, il nous libère du fardeau qui pèse sur nous. Il a pris le bâton qui nous opprimait. En fait, il l'a pris sur lui. C'est lui qui a reçu les coups à notre place. Il nous donne la paix. Nous ne sommes plus en conflit avec Dieu. Nous avons maintenant la paix avec Dieu. Jésus dit dans Matthieu 11, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Là, tu es là, tu dis, ah, moi, j'en veux pas de ça, de la religion, puis tout ça, parce qu'il me semble que c'est un fardeau, c'est la loi, c'est légaliste. Jésus est en train de dire, c'est exactement le contraire. Tu as besoin de moi parce que c'est là, justement, que tu vas te libérer, des fardeaux de la vie. Et le Saint-Esprit te donne en toi un nouveau cœur disposé qui aime suivre la parole. C'est une œuvre miraculeuse de Dieu, ça. Jésus a pris notre fardeau, il prend notre combat, il subit nos coups lorsqu'il a été cloué à la croix. Il nous libère. Et tu te trouves peut-être là en ce moment. Peut-être que tu te trouves là, exactement là, accablé par des fardeaux de la vie en ce moment. Écrasé par des choses qui se passent dans ta vie, auxquelles tu ne t'attendais peut-être pas. Mais la réponse est Jésus. La réponse est toujours Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Ta délivrance est là. Il y a une grande libération en Jésus. Il nous libère de nos fardeaux. C'est pour cette raison que lorsque Jésus est allé dans la synagogue, imaginez, Jésus rentre un jour dans la synagogue Et il va choisir, il va faire la lecture en avant, il va choisir un texte qui provient justement du livre d'Ésaïe, puis il va lire un passage. Et Jésus va en avant dans la synagogue, tout à fait, il arrive, il s'en va en avant, puis il lit un passage, et voici ce qu'il dit dans Luc 4, 18. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » En d'autres mots, « Je suis celui qui libère les captifs. Je suis celui qui donne la vue à ceux qui sont aveugles spirituellement. Je suis la liberté. » Tu veux être libre, tu vas à Jésus. Vous savez, la paix qu'on recherche se trouve vraiment en Jésus-Christ. Et cette paix va se réaliser complètement lors de son retour. Mais la guerre qui se lie dans notre cœur est due au fait que nous sommes pécheurs. La guerre qui se livre entre mari et femme, entre enfants et parents, entre nations et autres nations, est due au grand combat qui existe dans le cœur de l'homme. C'est que l'homme est séparé de Dieu. Notre péché, notre rébellion nous ont séparés de Dieu. Et c'est seulement lorsque nous réglons ce grand conflit en Jésus que nous pouvons régler les autres conflits. Toute tentative de régler les conflits de ce monde ailleurs qu'en Jésus va se solder par un échec. Nous avons une grande promesse ici. Ça dit, oui, toute chaussure portée dans la bataille. Et tout habit roulé dans le sang, selon livré aux flammes pour être réduit en sang. En d'autres mots, il n'y aurait plus d'armes. Il n'y aurait plus de guerre en Jésus. Un commentateur l'exprime bien. Il dit, non seulement allons-nous laisser tomber nos armes, mais nous allons également perdre notre désir de nous en servir. On ne voudra plus s'en servir grâce à l'incarnation. C'est grâce à ce Jésus qui vient. C'est ça que Ésaïe dit au verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'enfant qui naît est la raison pour laquelle nous avons tant d'espoir, la raison pour laquelle on sait que ses promesses vont se réaliser. 4 titres sont donnés à cet enfant. Et c'est des titres en passant qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. C'est vraiment une preuve de la divinité de cet enfant qui va venir. D'une part, on voit qu'il est divin, il est appelé le Dieu puissant, mais en même temps, c'est un enfant qui va naître, donc on parle de son humanité. Donc, c'est Dieu, mais il est humain. Il est divin et humain, on voit les deux. Il est appelé celui qui détient l'autorité, la souveraineté, qui repose sur son épaule. On l'appelle merveilleux conseiller, qui veut dire... On parle de beauté ici dans l'original, de grandeur, d'admiration. Lorsque tu regardes Jésus, tu es face à face avec l'ultime beauté. Jésus n'a jamais, il est la perfection morale. Tu regardes sa vie, il révèle l'homme parfait. Jésus n'a jamais confessé un péché. Il est l'homme le plus saint de l'histoire. Personne ne peut se déclarer aussi pur et aussi saint que lui au cours de toute sa vie. Il est le seul être humain parfait. Il a même demandé à ses ennemis s'ils pouvaient l'accuser et personne n'a pu trouver une seule tâche. Jésus est la première personne de l'histoire à prononcer la règle d'or. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et des millions de personnes ont suivi son exemple, son modèle d'éthique et de moralité. Il est la perfection même. Il est beau, il est admirable. L'impact moral de Jésus sur la société était phénoménal. Emmanuel Fichte a dit ceci, « Jésus a fait davantage que tous les autres philosophes à apporter la moralité du ciel dans les cœurs et les foyers du commun des hommes. Il est le prince de paix. » Tu veux avoir cette paix dans ton cœur? Tu veux cette paix vraiment profondément dans ton cœur? Bien, avec Jésus, on découvre cette paix. On découvre une paix spirituelle avec Dieu. On découvre une paix intérieure avec nous-mêmes. Et on découvre une paix relationnel avec les autres. Augustin l'a bien dit, nous avons été créés par Dieu. Alors notre âme ne peut être en paix avant d'être en paix avec Dieu. Et nous pouvons avoir la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Voyez-vous, à Noël, on célèbre la naissance de Jésus, car l'incarnation apporte la rédemption. Il nous fait passer de l'oppression à l'illumination, à la célébration et à la libération. Et tout ça, c'est une grâce, c'est un don, et c'est ce qu'Ésaïe nous dit. Il dit, un enfant, un fils nous est donné. Et c'est dans la mesure où toi et moi, on accepte, on est prêt à accepter que Jésus est un don pour mon salut, que là, c'est là que je peux avoir la vie éternelle, une relation, et que je vais trouver la paix dans mon cœur avec Dieu. C'est justement lorsque je suis prêt à reconnaître que Dieu m'a fait cette grâce, je ne le méritais pas, il a donné son Fils unique, afin que si je crois en lui, je puisse avoir la vie éternelle. La grandeur de Jésus se mesure en voyant jusqu'où il est descendu pour nous aimer. Et c'est ça que nous voulons célébrer à Noël. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, nos cœurs sont reconnaissants, nos cœurs sont pleins d'actions de grâce et de reconnaissance envers toi. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons te connaître, tu as fait briller dans nos cœurs la lumière de Jésus. Oui, Seigneur. Merci de ce qu'un jour, tu es intervenu, tu as dérangé notre routine, tu nous as bousculés pour qu'on puisse découvrir Jésus. Et peut-être il y a des gens ici ce matin qui ne te connaissent pas, Seigneur, et on te prie que tu accomplisses cette œuvre dans leur vie et que ce matin même, ils puissent s'abandonner à toi, ouvrir leur cœur à toi, s'abandonner, Seigneur. Et pour nous qui avons quelques années en toi, nous te prions que ce temps des fêtes, nous puissions t'honorer, te célébrer, parler de toi, raconter à nos voisins, à nos amis, nos membres, les membres de notre famille, combien tu es bon et combien la croix est le plus beau présent, le plus beau cadeau, le plus beau don inimaginable que l'on puisse recevoir. Merci Seigneur pour ta gloire. Amen.